Grand Angle.
Grand Angle sur Radio Orient, merci de nous suivre. La victoire du PSG en Ligue des Champions devait être un moment de fête. Mais à Paris, comme dans d'autres villes, les célébrations ont été marquées par des violences, des dégradations et des centaines d'interpellations. Plus de 890 personnes ont été interpellées selon le ministre de l'Intérieur et 178 policiers et gendarmes ont été blessés. Alors, comment expliquer que certains grands matchs basculent ainsi? Pourquoi le football, plus que d'autres sports, semble-t-il concentrer ces phénomènes de violence? C'est ce que nous allons décrypter avec Reda Didi, déléguée générale de l'association Graines de France. Bonjour et merci d'être avec nous.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Après la victoire du PSG, on a vu des scènes de fête, mais aussi des violences importantes. Comment analyser ce basculement entre célébration populaire et débordement?
Bon, d'abord, on a vu beaucoup de scènes de fête. Hein. Principalement, 99% des gens qui ont fêté ça de façon... Non, mais c'est vraiment un moment historique, un back-to-back, deux fois gagner la Ligue des Champions. Personne n'aurait imaginé ça il y a encore 5 ou 10 ans. Et là, on le vit. C'est quelque chose de qu'il faut absorber. Ensuite, on a pu voir, des gens qui ont gâché la fête, qui ont gâché une partie de la fête, notamment au centre de Paris et sur... le périphérique, et puis on pourrait y rajouter quelques villes de banlieue et de province où les choses ont parfois dégénéré. Quelques clés d'explication là-dessus. Beaucoup comparent le football à d'autres sports, type le tennis ou ce qui s'est passé aux Jeux Olympiques. Ça n'attire pas du tout le même public. Ça n'est pas aussi ouvert. Je pense qu'il y a peut-être une ferveur qui est différente. Les milieux populaires se reconnaissent quand même un peu mieux et un peu plus dans le milieu du football que dans le tennis ou d'autres sports que peuvent être, par exemple, le rugby ou à chaque fois...
Oui, le rugby qui est un sport collectif aussi.
Que tout ça se passe bien, oui, mais qui réunit moins de monde. Qui réunit quand même moins de monde, où vous avez moins d'aficionados, où vous avez moins de capacité à vraiment mobiliser autant de personnes, et notamment spontanément autant de personnes dans la rue. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire que je pense que vous avez des gens qui avaient en effet planifié le fait que les moments de victoire sont aussi des moments d'opportunité pour, passez-moi cette expression, mais foutre le bazar, piller, bordéliser la situation, et qui ont pu en effet avoir à disposition des outils tels que les réseaux sociaux pour pouvoir organiser tout ça et gâcher une partie de la fête à la majorité des Français.
Alors justement, Reda Didi, qui sont ces personnes? Quand on parle de violence après un match, de qui parle-t-on réellement? Est-ce que ce sont des supporters radicalisés, des casseurs opportunistes, des jeunes en rupture ou peut-être un mélange de profils?
Il me semble que c'est un mélange du profil de tout ça, même si je retiendrai les deux derniers quand même. Pour une chose très simple, c'est que quand il y a un match du PSG en finale ou en demi-finale au Parc des Princes, vous avez rarement de débordements qui se passent ensuite dans les alentours, en fait. Hein. Vous avez un peu de bruit, en effet, vous avez des fumigènes, vous avez rarement les débordements que vous avez là. Donc je dirais que c'est plutôt parfois des jeunes en rupture et aussi des gens qui profitent de la situation par opportunisme pour pouvoir éventuellement avoir une façon un peu spéciale de montrer qu'ils existent, de revendiquer des choses, tout en gâchant à une grande majorité des Français ces moments de fête, de communion, avec quand même là-dessus, hein, et la condamnation doit être unanime, une condamnation ferme et sans doute des exactions qui se sont passées.
Pour revenir justement à ce phénomène qui n'est pas nouveau, chaque grande finale, chaque grande victoire, le risque de débordement revient. Pourquoi les grands matchs de football produisent-ils régulièrement ce type de tension et pas les autres matchs?
Alors il y a les matchs de football, il y a éventuellement les 14 juillet, il y a toutes les fêtes vraiment qui arrivent à mixer très très largement les milieux populaires. Ensuite, je ne suis pas sûr que ce soit inhérent au football, c'est inhérent à un football dont la zone, le lieu est dans un milieu très très urbain, concentré d'urbain. Donc éventuellement Paris, éventuellement les zones comme Marseille. Ce n'est pas vrai qu'en France d'ailleurs, c'est vrai dans d'autres pays.
Hein.
c'est vrai en Angleterre, ça a été vrai en Allemagne. C'est voilà, le football a aussi, enfin, a beaucoup de choses très positives, mais a aussi des points noirs, des points qu'il faut améliorer, qui sont parfois des débordements autour des manifestations et aussi la façon de fêter ou la victoire ou la défaite des différentes équipes.
Le maire de Paris a évoqué la mise en scène des violences sur les réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux amplifient aujourd'hui ce phénomène ?
Ah oui, clairement. Je pense que les réseaux l'amplifient clairement. Vous savez, par exemple, à Paris, on a eu des sauts sur le canal Saint-Martin notamment, des sauts de jeunes qui plongeaient de la part d'un pont. Et en fait, c'est parti tout simplement d'un jeune qui a commencé à plonger, qui a été filmé, qui a mis ça sur les réseaux sociaux. Et le lendemain, vous aviez une centaine de personnes qui faisaient le même test. Donc on voit bien cette capacité des réseaux sociaux à créer du mimétisme, à créer du mouvement, à amplifier, à se donner rendez-vous, à jouer en tant que facteur ou en tout cas en tant qu'outil qui permettent de se donner des défis entre jeunes, entre territoires, pour aller encore plus loin parfois dans la bêtise.
Les autorités, Reda Didi, insistent sur la fermeté et le maintien de l'ordre, mais Laurent Nunez dit aussi qu'il faut regarder les causes profondes. La réponse policière suffit-elle à contenir ces débordements ou faut-il travailler en amont sur l'encadrement des rassemblements, les parcours de fêtes, les médiations, les transports, l'alcool, les réseaux sociaux ?
En fait, les deux, et je rajouterai un troisième. C'est-à-dire que on pouvait pas avoir un dispositif plus important que celui qu'on a eu là. 8000 personnes
déployées,
terrain. Sur le terrain en Île-de-France, 22 000 au niveau du territoire. Hein. Il faut se rappeler de ça. C'est ce qu'on avait déployé sur les pires week-ends qu'on a pu avoir avec le mouvement des Gilets jaunes. Vous voyez, donc c'est un gros dispositif, il faut s'en rendre compte. Donc je pense qu'on a atteint le plafond de verre de la réponse répressive. En fait, on peut pas, voilà, on en reste un pays démocratique, on peut pas être dans un système totalitaire. Ça, c'est un premier point. Le second que vous avez évoqué, c'est-à-dire accompagner un peu mieux, travailler un peu mieux, peut-être ouvrir un peu plus de fan zones, ouvrir un peu plus d'espace où les gens peuvent se réunir pour éviter cet attroupement et ces foules, et notamment avant et après le match. Donc avoir des espaces où les gens peuvent venir faire la fête, être heureux ensemble, communier comme ils ont besoin de le faire de façon organisée. Et je rajouterai un troisième point, c'est que je pense qu'en amont, il faut travailler un peu plus les questions de prévention et d'éducation. Et c'est-à-dire que peut-être que là, il faut travailler sur l'éducation, parce que si certains pensent que l'éducation coûte cher, comme un grand président le disait, eh ben, il faut essayer l'ignorance. Et l'éducation et la prévention est quand même, peut apparaître aujourd'hui comme le parent pauvre de notre pays, parce qu'on a eu beaucoup de coupes budgétaires dans ce domaine-là, et qu'il faut travailler sur la prévention pour éviter que les jeunes, à l'âge de 17 ans, entre 17 et 25 ou 30 ans, ne pensent que faire la fête, c'est aller casser, et leur donner une autre façon que de traduire ça. Je terminerai là-dessus. Le jeune, sa volonté et son besoin de prendre des risques est tout à fait normal. Voilà. Les encadrants, les dirigeants, les adultes, les accompagnants doivent permettre à ces jeunes-là de prendre des risques dans un cadre qu'ils auront eux-mêmes identifié, qu'ils auront eux-mêmes créé et qu'ils auront eux-mêmes sécurisé.
Merci Reda Didi d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Je rappelle que vous êtes délégué général de Graines de France. Cet épisode est disponible sur notre site et aussi sur Spotify. Merci de nous suivre et excellente suite de programme sur Radio Orient.
C'était Grand Angle.